Dans le tempo, c'est l'épisode 4, la rentrée. On y va juste après ça. Ça fait plaisir de vous retrouver après les vacances. Bon, en vrai, Michel, on n'a pas eu vraiment eu de vacances, on peut le dire.
Mais... on a charbonné comme jamais.
Bah ouais, il y a eu des épisodes quand même pendant l'été et tout. On est déter, comme vous le voyez. Mais bon, c'est la rentrée. On repart sur de bonnes bases. Évidemment, vous l'avez entendu avec mon gars Michel, a.k.a. Chronomusic. Ça va ou quoi?
Ça va et toi?
Bah ouais. C'est quoi, j'avais prévu une vanne sur le dernier Frisk Orléans, mais vu la polémique, je sais pas, en fait, il faut que je la fasse.
C'est tout.
C'est là, c'est là.
Tu t'en es remis, toi?
Moi, non, j'ai même pas... non.
Tu t'es désolidarisé complètement?
Non. Si, j'ai écouté l'album. Je l'ai pas écouté d'une traite, je t'avoue. Mmh. J'ai pas fait ce truc de première écoute, de genre je me mets à fond dans l'album et tout. Surtout que moi, ça fait longtemps que je l'attends. Projet Bluebeam, je l'ai écouté, franchement, je sais même pas combien de fois. Donc là, ici, cet album, je picore un petit peu.
En tout cas, si vous suivez un peu, donc Frisk Orléans, un rappeur qui vient de sortir un album, qui est réputé, qui est vraiment reconnu pour la qualité de son rap, etc., mais qui est en ce moment un peu dans la sauce sur les réseaux sociaux. Ça aurait pu d'ailleurs être un sujet intéressant, mais vous pouvez déjà vous pencher un peu sur le précédent podcast où on avait abordé quand même un petit peu ces questions d'une certaine manière, Michel. En tout cas, on reviendra peut-être à l'occasion quand ce sera un peu, tu vois, on aura un peu de recul sur tout ça, peut-être qu'on reviendra sur ce petit débat. Mais aujourd'hui...
Attends, moi tu m'as pas demandé mon avis.
Mais voilà. On t'a même pas encore présenté, mec, j'allais te présenter justement. Et après on donne... Puis en fait on fait une émission sur Frisk Orléans, c'est parti. On change complètement de plan.
Non, je suis jaloux moi, on demande à Chronomusic, on demande pas à moi.
Je te présente quand même rapidos. On est, vous l'avez reconnu, avec le musicien le plus chaud des internets. Monsieur voilà. Pandrez, qui vous fait l'honneur d'être avec nous pour discuter musique, pour discuter Lofi notamment. Mais avant, il veut faire son interlude, sa chronique sur Freeze. Vas-y, mon gars.
il est bien.
Voilà. T'as bien aimé cet album?
En fait, je l'ai pas écouté, mais tout le monde dit qu'il est lourd de ouf. Donc, je suis chaud hein, de ouf pour l'écouter un jour. Tu veux, on l'écoute ensemble?
Mais ouais, on fait une vidéo première écoute.
En vrai, il est bien. C'est un bon album. Mais en vrai, c'était une vanne. Hein. On ne sait pas. C'est pas un truc. On va pas parler de ça. Mais par contre, Chronomusic, je me demande si tu soutiens vraiment Frisk Orléans en ce moment avec tout ce qui se passe. C'est important.
Positionnez-vous, monsieur Chronomusic.
C'est pas de me saucer.
Chrono, tu fréquentes un peu l'animal, là, le Pandrez. Est-ce que tu nous le.
Ah ben,
tu
peux nous le bras dessous toute la journée.
Tu peux nous le présenter. Qui est Pandrez? Qui est cet homme?
Pandrez, c'est un producteur, notamment de chill-hop, de hip-hop de manière générale, de jazz-hop, de tout ce qu'il y a hop dedans, hein, plus ou moins, si tu me confirmes, et soul, trap, un peu tout ça. C'est quelqu'un qui réalise des chiffres assez scandaleux, surtout comparé au rap game, on va dire. Tu vois, on en parlait, je crois, dans le premier épisode de ce truc-là. C'est genre, Pandrez, il tape des chiffres qui sont colossaux, je veux dire, il y a un truc comme ça dans la culture rap de dire je fais des chiffres, et il y a beaucoup de l'imaginaire d'un rappeur qui se construit sur ce truc-là, ou au moins sur la volonté de faire des chiffres, etc. Et Pandrez, il fait partie de ces gens que tu vas pas forcément reconnaître dans la rue, qui ont pas du tout la même exposition publique qu'un rappeur avec les clips, avec tout ce truc-là. Mais que tout le monde a déjà au moins entendu un de ses morceaux, voire 10 de ses morceaux. Il y a des morceaux qui passent à la télé.
Pour que nos auditeurs ils aient une idée un peu, Pandrez, par exemple, il est plus écouté sur Spotify qu'un PNL, par exemple.
Non, c'est là où on peut aujourd'hui commencer.
Aujourd'hui, en tout cas.
Pas vraiment, en fait, c'est là où on commence à falloir... commencer à parler des vraies choses. Hein.
Pandrez.
Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre auditeurs mensuels et nombre de streams.
C'est vrai. Tu as raison.
Et ça, en vrai, j'ai un peu tous les jours, on me mentionne régulièrement en disant « Waouh, Pandrez fait plus de streams que Booba, fait plus de streams que PNL, etc. » Et ouais. C'est clairement faux. J'ai plus d'auditeurs mensuels que...
Plus varié, en fait, c'est ça. En gros, il y a plus de personnes différentes.
Mais en nombre de streams, et en fait, ça, c'est clairement corrélé avec autre chose, c'est que j'ai clairement beaucoup moins de fans que ces gens-là. Moi, je suis beaucoup écouté parce que, en fait, Alors, j'ai bien sûr un public qui m'écoute régulièrement aussi, mais le nombre d'auditeurs que j'ai par mois, n'est pas représentatif de cette, cette fanbase, tu vois. Parce qu'en fait, c'est les playlists qui comptent beaucoup au niveau volume. Ça, on en parlera sûrement après, mais...
Exactement.
Mais donc effectivement, j'ai beaucoup d'auditeurs mensuels, mais c'est parce que beaucoup de mes auditeurs viennent des playlists, en l'occurrence, rarement en France, c'est beaucoup d'Américains et de gens d'Amérique du Sud. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec ça, c'est le Chili beaucoup et le Brésil. Bon, c'est comme ça. J'avais même été accusé d'acheter mes streams à cause de ça par deux, trois personnes pas gentilles sur Twitter, un peu limité mentalement. Et en fait, non, c'est pas le cas, hein, parce que c'est pas très rentable d'acheter ces streams, je crois, en plus. Si tu cherches à faire de la thune, je crois que ça rapporte pas d'argent d'acheter ces streams, ça apporte de l'exposition, donc c'est encore autre chose. Moi, l'exposition, j'en ai rien à... Et encore. Et bon, l'exposition, moi, je t'avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est faire de la moula, tu vois, donc...
Mais en fait, déjà, il y a quand même une grosse différence entre toi et les artistes qu'on a cités, et qui est pas forcément en termes de volume, mais c'est aussi déjà l'image que t'as, parce que, en fait, déjà, t'as pas de voix, genre, je sais pas ce que ça représente maintenant pour le grand public, mais, enfin, si, t'as une voix, mais tu vois ce que je veux dire, dans tes morceaux, toi, tu chantes pas, t'as pas de texte, etc., alors que la musique purement instrumentale, déjà, les gens ont du mal à accrocher un nom à ce truc-là, j'ai l'impression, tu vois. Genre, si on parle bien du grand public, tu vois. Donc déjà, il y a cette différence fondamentale entre eux et toi qui fait aussi qu'il y a pas, il y a peut-être moins un culte que, comme par exemple, autour de Frisk Corleone. Mais t'as aussi une grosse légitimité dans le milieu du beatmaking, t'es le tonton.
Alors, c'est toi qui dis ça, je suis pas certain, mais il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, et puis d'autres, il y a beaucoup de gens qui savent même pas qui je suis et qui s'en branlent. Et puis il y en a qui m'aiment pas aussi, parce que
c'est
vrai que j'ai un peu d'exposition. Et il y a des gens qui peuvent se dire, j'ai une exposition légère, hein, mais tu sais, dans le monde du beatmaking, c'est rare qu'on ait un peu d'exposition sur les réseaux.
C'est vrai.
Et ça peut en énerver certains, parce qu'effectivement, je peux être, je sais pas, moins chaud que certains qui ont moins d'exposition, moins technique, machin, donc ça énerve certaines personnes. Mais je sais pas, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, j'en sais rien. Le tonton de rien du tout. Les gens qui me suivent depuis longtemps peuvent dire ça, parce qu'effectivement, j'ai un âge un peu avancé.
Pandrez, on voulait t'avoir dans le podcast parce que t'es quand même une figure de la musique lofi en France. Et ce mouvement, il est pas si connu du grand public, alors que c'est une vraie culture à part. Et c'est un phénomène aussi d'ailleurs dans l'industrie musicale. On a déjà évoqué un peu les playlists, on va y revenir. On va discuter de tout ça, mais on va commencer avec une première partie pour déjà éclaircir un peu ce que c'est que la musique lofi. Est-ce que tu te revendiques d'ailleurs toujours musicien de lofi, de chill-hop? Et puis surtout, il y a plein de mots qui semblent désigner des choses différentes. Est-ce que lofi, hip-hop, chill-hop, c'est la même chose? Quelle est ta définition un peu de ta musique, toi?
Ouais. Alors, je me définis pas comme un musicien de lofi ou de chill-hop, parce que je fais pas que ça, tu vois. Mais après, effectivement, c'est des morceaux comme ça qui marchent le mieux chez moi. Mais il y a pas vraiment de définition. En fait, lofi, lo-fi, ou je sais pas trop comment on devrait le dire, c'est juste normalement une manière de dégrader le son, tu vois. C'est à la toute base, c'est ça. Donc, les vrais puristes diront que normalement, c'est un adjectif qu'on vient coller plutôt à la house, à la toute base. À toute base, la lo-fi, ce qu'on appelait lo-fi, c'était de la house. Avec
la maison musique.
La maison musique, avec une gestion du grain et des textures assez particulière.
Et je me demande même si dans le rock, il n'y a pas eu aussi une époque, tu vois, dans les années 80, où il y avait assumé, tu vois, le lo-fi, ou même dans le métal, je crois que c'est Meshuga, tu vois, qui disait, nous, on enregistre de manière crade, c'est l'inverse de l'hi-fi, c'est la lo-fi. Ouais. Je crois qu'il y a un peu un truc comme ça aussi, non?
Il y a ça, ouais, dans le black metal aussi, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose, ça, c'est pas ce qu'on appelait plutôt le garage. Enfin, non.
Il me semble qu'il y a vraiment la notion aussi de lo-fi qui était utilisée. Mais en tout cas,
possible.
Voilà. Comme tu le disais, l'idée, c'est en gros, ça s'oppose à l'hi-fi, c'est d'avoir un son plus organique et plus crade, tout simplement, quoi.
C'est ça, ouais. Et donc, en fait, maintenant, ce qu'on appelle la lo-fi, ou lo-fi, c'est ce hip-hop, un peu aux sonorités boom-bap, enfin aux rythmiques boom-bap. Donc, on va avoir des rythmiques plutôt classiques, un peu rap des années 90, si tu veux. Mais avec une gestion de la texture assez particulière, avec une forte inspiration des grooves à la Jay Dilla.
Voilà.
Donc les grooves à la Jay Dilla, tu sais, c'est très peu joué avec la quantize, donc la quantification. Voilà. Donc,
c'est un peu critiquant, ouais. un peu bourré.
Exactement. Il y en a qui disent au fond du temps.
Voilà.
Lay back.
Pour rappeler juste, Jay Dilla, producteur américain, notamment de Slum Village, décédé assez jeune d'ailleurs, et qui a marqué toute une génération de producteurs, et notamment évidemment le Lofi, quoi.
Bah ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est cette gestion du groove qui a vachement été reprise. Alors ça existait déjà avant, mais Jay Dilla, il a vraiment poussé le truc très très loin. En fait, il utilisait sa MPC, il n'utilisait jamais la fonction quantize, jamais. Avec aussi une gestion des basses. Tu sais, les basses, c'était juste une sub très profonde. Ouais. Venait faire des à-coups, etc. Et ça, ça a été vachement récupéré.
Et c'est donc souvent légèrement décalé par rapport à son kick aussi, qui est un truc que, par exemple, quand tu viens de l'électro ou même du métal ou des trucs comme ça, souvent, on t'explique bien que le kick et la basse, ça va ensemble. C'est parmi les premiers trucs qu'on va te dire. En tout cas, que si quelqu'un qui fait déjà un peu de son va essayer de t'expliquer, c'est un des premiers trucs que moi, on m'a dit. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un des fondamentaux. Et lui, il a ces petits décalages, la basse qui commence un poil avant ou un poil après. Et en tout cas, pour la génération de gens qui ont grandi en faisant directement de la MAO et très peu de trucs justement organiques, qui sont un peu comme moi, qui font les bails à la souris et tout ça, c'est un truc qui peut paraître un peu contre-intuitif, tu vois, de faire démarrer ta basse avant ton kick ou après ton kick. Et en fait, ça donne un effet, comme tu dis, laid back, un peu, ouais, un peu bourré, un peu...
Ouais, ça, et groovy, en fait, ça casse la nuque, quoi. Ça casse la nuque de ouf. Alors, je sais que moi, j'ai découvert ce style de rythmique, pas avec Jay Dilla. Personnellement, j'ai découvert avec ce que faisait Vincil. Vincil, avec ses projets Hocus Pocus, pas avec ce qu'il faisait avant, pas avec les deux premiers projets d'Hocus Pocus, mais ce qu'il a fait à partir du troisième projet. Ouais. Avec des rythmiques. Bah, d'ailleurs, ils passent leur temps à faire des refs à Jay Dilla dans les morceaux, mais. Mais ouais, ces rythmiques-là, très, très, très groovy. Et ça casse la nuque de ouf. Je me rappelle, j'écoutais ça et je me demandais, mais comment ils font ? Moi, avec ma MPC, ça fait pas ça. Bah, après, je quantisais comme un bâtard, tu vois. Mais
ouais.
Et je me demandais ce qu'ils faisaient ça. Et tu sais, moi, à la base, je croyais qu'il fallait juste une MPC et que le groove, il se mettait tout seul. Enfin, bref. Et,
les petits mythes que tu te crées tout seul dans ta tête.
Ouais, ça, bah, tu sais, parce que tout le monde parlait de la compression de la MPC, je me rappelle, avant que je l'achète. Il disait, ouais, il y a une compression particulière à la MPC qui fait un truc de ouf. Et tu sais, moi, j'y connaissais rien, mais je me dis, la compression, peut-être que ça fait du groove aussi.
Ouais.
Enfin, tu sais, ouais, con, quoi. Et,
débutant, quoi.
Ouais, et donc la lo-fi, je vais dire, ce qui définit le genre, ça va être ça. Après, c'est difficile de définir ce genre, parce que c'est pas un vrai genre, c'est un sous-genre.
C'est un tout, en fait, le terme.
Ouais, de ouf. Et mais c'est surtout une gestion de la texture, du groove, et c'est déjà pas mal, en fait. Hein. C'est gestion de la texture et du groove.
Et la plupart du temps, c'est instrumental aussi, non ? Ou est-ce
exactement.
Que ça, ouais, ça, c'est quand même une caractéristique aussi importante, quoi, que ça soit purement instrumental. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que on a l'impression que dans la musique populaire, la musique instrumentale, elle est quand même un peu en retrait de manière générale. Et c'est l'un des trucs passionnants avec le lofi, c'est que j'ai l'impression que cette musique, qui est extrêmement populaire, en fait, le grand public la connaît pas, mais notamment à travers le web, elle est très diffusée, très écoutée, elle accompagne énormément de vie, en réalité. Et j'ai l'impression que elle a remis un peu la musique instrumentale dans le quotidien des gens. Une autre approche de la musique, tu vois, plus, alors, après, c'est le côté aussi streaming qui veut ça, tu vois, genre d'accompagner le quotidien. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais. Alors après, c'est aussi parce que les modes de consommation de la musique ont changé, les habitudes de consommation aussi. Ce qui veut dire que, et c'est aussi un des soucis de la lo-fi, c'est que beaucoup de gens écoutent en background music, tu vois.
Ouais.
On appelle ça comme ça. Alors moi, je suis pas fanatique de ce genre d'appellation, mais c'est un peu vrai pour beaucoup de gens, tu vois. Ils mettent ça quand ils font leurs devoirs, quand ils sont... ouais, c'est beaucoup ça, en fait. Ils font leur devoir.
Il y a beaucoup de streamers, c'est utilisé aussi pour les vidéos, je sais pas, ça peut être des vidéos YouTube, des trucs comme ça. C'est de la musique instrumentale, c'est chill, c'est posé, souvent assez discret, j'ai envie de dire, tu vois. Donc ça pose vraiment une atmosphère et c'est ce que les gens recherchent dedans, je pense.
Peut-être, les gars, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, donner quelques noms. Alors, dans les anciens, entre guillemets, un peu les pères fondateurs, donc on a parlé de Jay Dilla, on pourrait parler de New Jabes, de Madlib éventuellement, et dans des mecs peut-être plus récents, plus actuels, qu'est-ce que tu nous conseillerais, Pandres? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour découvrir un peu le chill-up, la lo-fi
Alors après, ouais, faut différencier chill-hop et lo-fi, surtout parce que chill-hop, c'est un label à la base. C'est pas un genre. À la base, c'est un label musical.
C'est comme Motown.
Ouais, voilà, exactement.
Mais ça devient presque plus avec le...
Exactement ça. Et en fait, effectivement, chill-hop, ils avaient un peu le monopole du genre pendant un moment. Et ils s'en éloignent de plus en plus pour avoir un style beaucoup plus porté vers le... Je sais pas comment dire. Alors toujours avec ce gros jeu de groove, de texture, etc. Mais beaucoup plus porté sur le future beats, etc. C'est surtout ça que ça devient chill-hop, là. Et c'est cool. Moi, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que la lo-fi, ça tourne vite en rond, quand même, au bout d'un moment. Et je sais pas, en artiste... Pour moi, un des meilleurs artistes, mais c'est pas vraiment lo-fi, mais il est classé là-dedans, c'est Quickly. Pour moi, c'est un des plus stylés, un des plus chauds. C'est magnifique ce qu'il fait, je vous conseille d'écouter ce qu'il fait. Quickly,
j'adore aussi.
Je suis fanatique, ouais, t'as de bon goût. Et sinon, en lo-fi brut, bah, y a Nimano, hein. C'est très hip-hop, plus que lo-fi, mais c'est... En même temps, artiste lo-fi pur, ça... Il y a Idealism, qui a un peu lancé le mouvement. Idealism, Beside You, qui est, je pense, vraiment un des vrais... BSD.U, qui est un des vrais mecs qui a lancé la vibe sur SoundCloud, parce que la vibe, à la base, c'est une vibe SoundCloud, hein. C'est un genre qui était vraiment que sur SoundCloud, avec que des gens qui se connaissent, machin. Donc ouais, Beside You, Nimano, Idealism, etc. Dans ce game-là, je pense que c'est les plus gros blazes, je pense. Hein. Andrés, c'est pas mal aussi.
Et alors justement, tu vois, Tu disais ça, c'est vachement lancé sur SoundCloud, etc. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une espèce de culture quand même autour du lo-fi, du hip-hop lo-fi en tout cas oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des modes de consommation, c'est quand même très lié à Internet, et puis il y a toute une imagerie, une esthétique vachement japonisante, liée à l'anime, etc. Est-ce que toi tu le vois vraiment comme un espèce de tout, tu vois, comme ça, une culture à part entière, ou avant tout c'est juste, ouais, je sais pas, un genre musical et c'est tout, quoi?
C'est une question un peu clivante, parce que c'est un peu les deux, tu vois.
T'as le droit d'avoir une réponse un peu plus fine. Hein,
En vrai, effectivement, t'as raison. Il y a toute une imagerie très weeb qui s'est créée autour du truc. Hein, donc, mettre des backgrounds d'animé, mettre des voix d'animé, des samples de voix d'animé, etc. Ou sampler carrément des musiques d'animé, parce que c'était aussi le lo-fi à la base. C'est beaucoup basé sur le sampling. De moins en moins, parce que bah, maintenant les gens font gaffe, comme ça marche vachement bien si tu te fais gauler, c'est mauvais délire. Ouais. Par exemple, moi ça fait 2 ans que je sample plus, tu vois.
Ouais.
Parce que ouais, j'ai des tracks à 15 millions, 20 millions sur Spotify. Imagine, tu te fais gauler avec un sample, je pense que tu fais pas le malin, quoi.
Ah, ça donc,
ouais. Donc mais à la base, ouais, c'est très très basé sur le sampling, la lo-fi. Mais ouais, toute cette imagerie, mais après. Pour moi, c'est un peu les deux. Cette imagerie, personnellement, commence à me casser les couilles, moi.
Genre, trop utilisé, vraiment, tu l'as trop vu, trop... C'est devenu cliché, c'est quoi qui te...
Ouais, de ouf. Ouais. En fait, alors je m'en suis servi aussi, donc ça serait un peu craché dans la soupe, quoi. Dans ma propre soupe, mais c'est une imagerie qui, personnellement, commence à m'emmerder, et qui commence à emmerder pas mal de monde dans ce game-là, tu vois. Et c'est un style de musique aussi qui commence à être extrêmement... En fait, comme c'est très, très codifié, la lo-fi... Ça commence aussi à tourner un peu en rond. Parce que c'est tellement codifié qu'en fait, il y a peu de gens qui amènent des trucs nouveaux. Ça a l'air si simple à faire. Alors, c'est pas si simple, aussi simple qu'on le pense, mais ça a l'air si simple, tout le monde s'y met. Parce que c'est très grand public, donc ça intéresse beaucoup de gens, effectivement. Et donc, tout le monde s'y met, et donc, en fait, il y a une sorte de saturation qui se crée. Beaucoup de producteurs commencent à délaisser ça. Tu sais, même des producteurs... Ceux qui ont un peu lancé le mouvement commencent à dire que la lo-fi est devenue de la merde.
C'est souvent comme ça.
Mais ils n'ont pas vraiment tort. Enfin, moi, j'ai du mal, moi, normalement, avec ce genre de statement, avec ce genre de prise de position. Mais en vrai, là, je trouve que c'est effectivement un peu vrai. Parce que tout le monde s'y met. Et en fait, c'est tellement codifié. Et ça s'adresse tellement à un public large qu'en fait, maintenant, tu vas voir tout simplement sur les playlists Spotify qui cartonnent, là.
Ouais.
Et en fait, tous les sons se ressemblent. Il y en a qui sont mixés, mais vraiment avec la beat, quoi. Et tu te dis, bon, ouais, c'est catastrophique. Et tu te dis, bon, en fait, il a juste fait les codes comme il fallait. Techniquement, c'est pas au point, mais les codes sont là, donc ça parle. Enfin, donc c'est playlisté, donc ça cartonne. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd un peu cette vibe qu'il y avait un peu au début, tu vois. Ouais. Alors, moi, je fais pas partie des fondateurs, donc j'ai pas trop ma gueule à ouvrir, mais.
Ça t'empêche pas, toi, d'approcher le truc avec passion. Moi, c'est un truc qui m'avait assez frappé, tu vois. Genre moi, j'avais fait donc cette vidéo qui, à la base, s'appelait « Faire de la lo-fi en 3 minutes ». Et puis, j'avais fait un album lo-fi Animal Crossing qui était vraiment dégueulasse et je l'ai fait en 3 jours. Et l'idée, c'était vraiment de genre « Viens, on fait des vues avec de la lo-fi », tu vois. Mais donc, j'avais cette approche complètement nasbrock et avec... au final, genre une vision très extérieure du style lo-fi, tu vois, parce que j'en écoute pas tant que ça, comme beaucoup de gens, tu vois, genre je le mets en fond quand je fais des trucs ou quand on fait une soirée, ça pose une bonne ambiance et tout ça, tu vois. Mais c'est rare que j'en mets juste pour écouter. Mais du coup, en faisant cette vidéo, j'ai découvert vraiment une commu de beatmakers lo-fi qui m'ont bien expliqué que c'était pas forcément des trucs qui étaient faciles à faire, etc., tu vois. Et surtout, enfin, moi, du coup, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des gens qui s'investissaient énormément, tu vois, pour justement produire des textures qui soient intéressantes au moins à leurs yeux et justement jouer un peu avec ces codes-là, etc. Alors que moi, j'avais fait un espèce d'agrégat de, c'est une caricature comme je fais toujours sur ma chaîne, tu vois. C'est toujours une espèce de, c'est un truc un peu caricatural d'un style très, c'est un archétype, juste je m'étais dit, comme ça me prend pas trop longtemps à le faire ce truc-là, comparé à un Tetris versus Halloween ou des trucs orchestraux ou des trucs comme ça, je me suis dit, on me demande souvent des versions longues, je vais en faire un album complet, Inch'Allah, je tape des vues, tu vois. Mais du coup, j'ai samplé Animal Crossing et du coup, Spotify, c'est mort, je le mets pas là-dessus, tu vois. Ça reste sur YouTube et voilà.
Après, ça, c'est comme dans tous les genres, en fait. Il y a toujours... En fait, tu vas toujours froisser des gens qui font ça depuis très longtemps et qui vont dire mais non, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, c'est comme quand moi je faisais des vidéos sur de la Petra, tu sais, ou sur la Future Base, sur la Kawaii Trap, je sais plus quoi.
Ouais, voilà.
Et tu sais, forcément, t'as les mecs qui font ça depuis longtemps ou les vrais experts qui vont forcément t'emmerder un peu.
Oui, voilà, parce que tu connais rien.
Pourquoi pas ? Oui, oui, parce qu'effectivement, tu connais pas aussi bien, tu vois. Ouais, et, voilà. Et en vrai, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que le souci, c'est que la lo-fi, ça jouit déjà d'une image assez moyenne par le fait que ce soit considéré comme la background music, etc.
Ouais.
Et donc, juste en fait, c'est vrai que ça ne tire pas le truc
background music, vers le haut. Limite, de manière péjorative, on pourrait parler de musique d'ascenseur, c'est ce qu'on entend parfois.
Oui,
quoi. C'est
ça,
un peu stylé.
C'est exactement
quoi.
Ça. Ouais. Oui, c'est exactement.
Pardon,
ça.
Je te laisse terminer. Ouais.
Non, mais c'est. Je sais plus ce que je disais.
Ah merde, j'ai foutu ton intervention en l'air.
Non, tu disais ça ne jouit pas déjà d'une bonne image spécialement, tu vois. Donc c'est d'office pour ces gens-là, c'est pas marrant quoi, tu vois. Genre ceux qui sont passionnés par ce truc-là, qui entendent un type qui vient dire ah regardez, c'est facile à faire et tout.
Ouais, c'est En fait, c'est considéré comme étant très facile à faire, machin, très simple. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est une musique assez subtile en vrai, la lo-fi, quand elle est propre et bien faite, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est une musique qui est subtile, avec plein de petites subtilités. Mais tu vois, par exemple, moi, ma lo-fi, quand j'en fais, je la mixe pas pareil que de la lo-fi classique, déjà pour essayer de tirer un peu mon épingle du jeu. Parce que tu sais, normalement, dans la lo-fi, tu ultra filtres tes snares, t'as des kicks assez en fond dans le mix, t'es pas trop présent,
ouais, voilà.
Des basses discrètes. Et moi, au contraire, je déteste ça. Mais ça, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup la trap aussi. Ça doit être pour ça. Mais... Et donc, moi, je mixe très différemment. Je mets des snares assez présentes, des kicks très profonds, très lourds, des basses très, très grosses aussi, que je mixe presque... Ça m'arrive de mettre des 808 dans ma lo-fi, tu vois, sans pression. Ouais. Juste pour avoir un son qui me plaît plus, tu vois, et pour que ça apporte quelque chose d'un peu différent de toutes ces... Et moi, mon but, c'est que quand tu as la playlist avec 60 000 sons dedans, quand tu tombes sur ma track, tu dis tiens, celle-là, elle sonne pas comme les autres.
Mmh.
Elle est mieux. Et ils ont raison. et oui, en fait, comme c'est un genre qui tourne en rond, j'ai remarqué que beaucoup de producteurs de lo-fi finissent toujours par évoluer sur quelque chose d'autre, un peu différent, tu vois.
Oh bah ouais. Bah c'est bien, tu fais tes classes, on va dire, tu vois, et puis tu... Tu vas voir ailleurs. Mais c'est vrai que, enfin, c'est comme tous les styles, hein, d'office. T'as des gens qui sont très passionnés, qui, eux, se sont suffisamment plongés dedans pour en capter toutes les subtilités, qui vont pouvoir jouer avec, etc. Mais potentiellement, c'est aussi des gens qui peuvent rester frustrés très longtemps parce que le public n'a pas forcément la même conscience des codes qu'eux. Et plus tu vas te spécialiser, plus tu vas aussi te couper des néophytes, des gens qui connaissent rien, qui feront pas la différence entre une bonne lo-fi et une mauvaise lo-fi tant que ça ressemble suffisamment.
Ce qui est normal. En vrai, c'est normal. Le truc, c'est qu'on peut pas en vouloir aux gens. En fait, ça, c'est des problèmes de producteurs et avec leur propre ego, quoi.
Ouais, voilà, enfin, c'est ça.
C'est alors c'est difficile de faire fi de son ego pour le coup, mais c'est en vrai c'est complètement compréhensible. On peut pas en vouloir aux gens de pas avoir le même intérêt et de pas les mêmes connaissances que soi sur un sujet très précis et très pointu entre guillemets.
Ouais, voilà.
Mais voilà, c'est vrai que quand t'as la tête H24 là-dedans. C'est en fait, je me rappelle très bien de certaines personnes qui t'avaient fait des critiques sur ton projet, par exemple d'Animal Crossing. Je me rappelle, j'étais allé les voir, parce qu'il y en a que je connais personnellement, et j'étais allé les voir, j'aurais dit, ouais frère, c'est tranquille, ils te retirent pas le pain de ta bouche non plus, tu vois.
C'est ouais, c'est vrai qu'il m'avait dit, ouais, genre, ils tapent des vues sur ce truc et tout, alors que c'est de la merde et tout. Et c'est vrai que c'est injuste, tu vois, genre, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, tu vois. Genre, juste, moi, je me suis amusé à le faire, il y a des gens qui ont kiffé. J'avais une plateforme pour le faire, je l'ai fait, voilà, tu vois. Mais c'est vrai que le regret que j'ai sur cette vidéo-là, c'est que en gros, moi, j'avais vraiment comparé à d'habitude, je fais en général des vidéos où j'essaye de sourcer et de surtout de renvoyer vers des gens qui le font en bien, tu vois. Et sur cette vidéo-là, je l'ai pas fait. Et je suis dégoûté, tu vois, parce que juste j'étais dans le rush, j'avais plein de trucs à faire, je m'étais dit cet album-là, il faut que je le fasse vite et tout, tu vois. J'ai fait la vidéo vite, j'avais pas envie de me prendre la tête, et du coup j'ai pas fait ce truc-là. Et ça me dégoûte, tu vois, parce que je me dis ouais, je comprends, genre si j'étais venu te voir et que je t'avais dit ouais, vas-y, donne-moi 2-3 noms de gens qui sont forts et qui ont pas beaucoup d'exposition, et on fait une petite liste, et à la fin de la vidéo je dis si vous voulez entendre dans genre ce genre de bail en bien, renvoyez ça vers aller voir ces gens-là, ben genre j'assumerais plus cette vidéo, tu vois. Genre là maintenant avec le recul, je me dis ça craint, tu vois. Genre je devrais faire amende honorable auprès de ces gens-là, je le ferai. Mais
c'est pas...
tu vois, non, mais tu vois, enfin genre j'essaye d'avoir une approche constructive, tu vois, sur YouTube. C'est vrai que, et j'essaye de mélanger ça avec mon balécouillisme naturel de plus en plus, et du coup faut que je fasse attention à pas, tu vois. Mais je comprends la critique à 100% de dire c'est injuste, tu vois, genre quelqu'un fait un truc, il le fait même pas avec une espèce de passion ou quoi, tu vois, avec une approche un peu cynique et tout, et toi t'es là, t'es passionné, tu grailles pas, ça craint. Donc,
Je comprends ce que tu dis. Hein. Après, bon, c'est ce que je redis, hein, c'est que tu retires le pain de la bouche de personne. Tu vois, c'est-à-dire, tu fais ton petit truc.
Oui, bon, voilà. Enfin, je le faisais pour rigoler, tu vois.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que je me suis dit, il aurait pu se faire chier sur le mix, ce bâtard, quand même.
Ah ouais, non,
quand
j'ai rien fait.
J'ai écouté le truc, je me suis dit, ah ouais.
Ah ouais, non, j'ai rien fait.
Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce mix?
Ah non, mais c'est une escroquerie, hein, c'est une escroquerie. Mais c'était marrant.
Oui, par contre, ça m'a fait galerie. Mais par contre, en fait, c'est un genre, enfin, sous-genre, je sais pas quoi, qui a énormément de ramifications. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant inspirées, au moins par certaines particularités de la lofi, tu vois. Genre, par exemple, le jeu de texture et de groove très fort qui vient de Dilla à la base, tu vois, mais enfin. Le style un peu à la Dilla au niveau du groove et tout, maintenant on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de nouveaux trucs qui sont, je trouve, excellents dans le SoundCloud game, là. Tout ce qui est Future Beats, etc., qui joue beaucoup avec les textures, avec le groove, mais avec un son beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de sound design, une sorte de mélange avec de la future bass, de la trap, et aussi l'aspect groovy et texturé de la lofi.
Ouais.
En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça laisse des marques, en fait, un peu partout. Et même dans le mainstream, maintenant, on retrouve sonorités comme ça. Un peu partout, bah, tu sais, après, il suffit de voir, hein, tu sais, les buzz TikTok, là, on a plein de trucs dans ce genre-là.
Ouais.
Joji.
Ouais, puis même dans dans la grosse pop, hein, genre, moi, je trouve et qui date déjà un peu, genre, le dernier album d'Ariana Grande, il y avait quand même carrément des tracks dedans, c'était du lo-fi, genre Boyfriend. Genre, enfin, c'est pas du lo-fi, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, t'avais ce truc extrêmement filtré, extrêmement doux, tu vois. Et après, je pense que ça va de pair aussi avec l'aspect nostalgique du truc, quoi, tu vois.
Ouais,
genre, on a un son qui devient, j'ai l'impression, de plus en plus nostalgique, y compris dans le mainstream. Mais mais pour moi, clairement, j'ai l'impression que le côté lo-fi, c'est imprégné de partout. Quand t'écoutes maintenant, même dans les mix, simplement, genre, c'est rare. J'ai l'impression que les hautes fréquences, c'est has-been, tu vois.
Grave. C'est trop brillant. Quand c'est trop brillant, ça fait mal aux oreilles. Maintenant, ça fait bizarre. Non, mais clairement. clairement, clairement. Maintenant, ce qui est important, c'est la chaleur.
Voilà.
Il faut un mix chaud et granuleux.
Voilà.
Et, mais même dans la peutra, hein. Enfin, quand c'est bien mixé, parce que putain, t'entends certains nouveaux projets qui sortent, pleure ta race. Mais, ouais, clairement, clairement, clairement. Mais de toute façon, depuis, je sais pas, je dirais 6 ans, 6-7 ans, il y a ce délire-là. Je sais pas, bah, tu te rappelles, t'as fait une vidéo dessus, hein. La Vaporwave qui était arrivée.
Ouais, ouais.
Le gros buzz que ça a fait, et ouais, c'est clairement très très lié à, bah, à la culture lo-fi.
Ouais.
Dans le même game, tu sais, sur la SoundCloud, moi j'en fais un peu de ça. Il y a la funk trap, ouais, funk qui reprend un peu les codes du rap de Memphis à l'ancienne, mais tu sais, avec bon, quand même des nouvelles techniques et tout. Tout ce jeu-là de nostalgie et de texture, machin. Qui est très très propre, qui est très très présente, qui a été un peu initiée par SoundCloud effectivement il y a, je sais pas, un peu moins de 10 ans,
ouais,
et qui maintenant rentre clairement dans les mœurs mainstream.
Ouais, de ouf. Et en vrai, moi j'aime bien, c'est juste au bout d'un moment il va falloir que ça tourne, tu vois, mais genre le fait d'incorporer ce genre de, je sais pas, de sentiment en fait, hein, parce que c'est ça, tu vois, genre c'est, parce que là on parle très technique, production, etc., mais je pense qu'il y a une volonté de donner justement un aspect un peu nostalgique, tu vois.
C'est très intéressant ce que tu dis, Michel, parce que c'est un point qu'on voulait aborder dans le podcast, c'est que c'est des musiques faites pour chiller, c'est des musiques faites pour être un peu tristes quand même, un peu mélancoliques, l'imagerie utilisée, c'est souvent un peu une imagerie vachement urbaine, du mec dans sa chambre, alors c'est pas que ça évidemment, hein, je parle des clichés, mais il y a quand même un truc, j'ai l'impression, c'est presque un peu... générationnel, d'une forme de spleen, d'une génération un peu perdue qui se retrouve dans cette musique. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent, ça, ou tu vois, au-delà de la musique, un truc culturel comme ça?
Bah oui, bah là tu pars sur des on va parler société et tout.
Ouais, mais c'est intéressant aussi, c'est ça la musique aussi.
On vit dedans, hein, on vit dans cette société.
On vit dans une société. Où... Non, bah oui, t'as raison, enfin, sûrement. Alors après, moi je t'avoue, je peux pas m'identifier aux mômes qui écoutent ce genre de musique, dans la mesure où j'ai sûrement le double de leur âge, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu sais, quand tu regardes l'imagerie qui en découle, et puis si c'est souvent des gens qui vont à l'école, qui écoutent leur musique en faisant les devoirs, etc., c'est difficile de s'identifier à ça. Après, déjà, la nostalgie et le spleen, comme tu dis, c'est une émotion, j'ai l'impression que c'est peut-être l'émotion la plus facile à rendre en musique. C'est plus facile de faire des musiques tristes et lentes que de faire des musiques énergiques.
Ça, c'est sûr et certain.
Déjà. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, tu vois. Donc, déjà, ça... Et puis, c'est une émotion qui est aussi... je sais pas comment dire. En fait, une musique joyeuse, c'est rare. Soit c'est rare.
Mais parce que c'est dur à faire, justement, je trouve.
Bah, après, alors, c'est dur culturel à faire aussi. Si, par exemple, tu écoutes de la musique latine ou des trucs comme ça, tu vois, genre...
Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qu'on a en France, mais t'as raison, c'est pas du tout pareil suivant les coins du monde. Hein.
Oh, ouais, t'as clairement raison.
Après, genre, je pense que globalement, la société part en couille et que. Genre, les...
Par exemple,
qu'il y a un sentiment mondial, clairement, que genre, c'est là, en ce moment, c'est dur et qu'il y a un espèce de spleen mondial et que du coup, c'est plus compliqué d'être positif, c'est plus compliqué de proposer des trucs positifs. Ça se voit dans le cinéma, ça se voit partout, tu vois. Mais. Je pense que ouais, c'est pas un truc qui soit absolu, tu vois, l'idée que genre c'est plus facile quoi pour les humains ou je sais pas, tu vois, d'exprimer du triste ou du tu vois, de la mélancolie.
Non, et puis aussi on rejoint aussi le fait tout à l'heure que c'est une musique qu'on écoute quand on veut être au calme, tu vois.
Ouais.
Et en fait c'est difficile de faire une musique calme mais avec un rythme entraînant.
Ouais.
Tu vois, c'est forcément, tu vois, le lo-fi par exemple, tu sais, tu prends un beat hip-hop old school, classique, tu vois, genre aux alentours de 90 BPM, c'est ça en général, c'est du 87, 90, ça c'est old school. Enfin, old school, boom bap, ouais, ce que tu veux. Mm-hmm. Et ben, la lo-fi, c'est plus lent que ça. En général, on est plus aux alentours de 80, des fois même en dessous, on est dans les autres 70, 75, tu vois.
Ouais.
C'est très très lent, la lo-fi. Alors, en tout cas, le cliché de la lo-fi, parce que tu vas retrouver des sons de lo-fi à bien, un peu groovy, tu vois, 87, 88. Mais... Donc rien que ça déjà, en fait, rien que les spécifications techniques du truc, les contraintes techniques du truc font que de base c'est des musiques qui vont être très lentes, et donc la lenteur déjà ça apporte un peu de ces sentiments de mélancolie ou de tristesse ou de Alors après, tu peux faire effectivement des effets de style et tout, hein.
Mmh. Ouais, bah
je pense.
Ouais.
Ça, tu peux créer des trucs joyeux très longs. Mais c'est vrai que naturellement, quand on entend une musique très lente, on a tendance à plutôt faire ressortir les trucs nostalgiques, mélancoliques, ouais, bah tristes, ouais, et tout, quoi.
Mais c'est vrai que genre, enfin, moi j'ai l'impression que il y a un truc qui existait avant ça, et enfin, qu'en gros, comment exprimer le truc. Genre, pour moi, le lo-fi, il y a cette tendance à la mélancolie, etc. Tu vois, d'ailleurs, c'est, genre, j'avais reçu quelques commentaires sous mon album machin qui me disaient, ah, c'est cool, genre, du lo-fi, mais pas triste, tu vois. Alors, c'est juste, c'est bon, c'était les samples qui faisaient ça, tu vois, c'est Animal Crossing, genre, c'est pas triste. Mais avant qu'on appelle ça lo-fi ou chill-hop, pour moi, il y avait le trip-hop. Tu vois, mm-hmm, et qui était un peu ce truc-là de, en gros, c'est du rap sans parole. Enfin, c'est juste des instrus que t'écoutes comme ça, tu les mets en soirée quand t'as des potes, que tu veux être un peu chill, etc. Et il y avait un côté plus positif, un peu plus rythmé, un peu plus, en fait, plus proche du rap des années 90.
Clairement, t'as grave raison.
J'ai l'impression que ouais, c'est une filiation de ce truc-là, et que genre, le lo-fi, c'est la version 2020 de ce truc-là. Avec la mélancolie qui est peut-être un peu généralisée, ouais, je ne sais pas.
Peut-être. Après ça existe. Enfin, il y a encore des trucs trip-hop qui sortent et tout, mais enfin.
Ah oui,
ouais, pour moi, la trip-hop, ça serait plus à chercher du côté de chill-hop pour le coup, tu vois. Mmh. Mais ouais. Là, c'est chiant. En fait, là, ça veut dire qu'il faut. Il faut vraiment différencier la lo-fi. Mmh. C'est lo-fi qui, pour moi, c'est vraiment parce que. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des trucs en me disant « Regarde, j'ai fait une lo-fi, qu'est-ce que t'en penses ?» Ça n'a rien à voir avec de la lo-fi, tu vois. Ils ont juste fait un beat hip-hop 90 ouais. BPM, un peu chiant, et c'est tout, tu vois. et en fait, pas de jugement de valeur, hein, mais... et en fait, faut vraiment faire gaffe. Ouais, la lo-fi, c'est vraiment très, très codifié. Et donc, en fait, ouais, il faut bien différencier. Par exemple, tu dis au patron de Chillop que c'est un label de lo-fi et il va te cracher à la gueule, tu vois.
C'est-à-dire, non, il est pas gentil
ou pas. Non, tu vois ce que je veux dire. Ça, ouais. C'est très. Effectivement, pour moi, le trip-hop, c'est maintenant ce qui se fait chez Chillop, le label Chillop, qui marche bien d'ailleurs. Ouais. Et par contre, ce qu'on va trouver en lo-fi brut, c'est ce que tu as trouvé chez Chilled Cow. Donc, c'est ouais. le label Chilled Cow. Là, ça va être vraiment lo-fi brut. Mais oui, t'as clairement raison. Pour moi, le trip-hop, c'est un peu l'ancêtre de cette vibe-là, toute cette vibe-là.
Enfin, en tout cas, genre, moi, ça me fait penser à des noms que j'ai oubliés.
Genre Bonobo, clairement, par exemple.
Mmh, ouais, c'est vrai qu'il y a une filiation, un peu. Ouais.
Chinese Man, tu vois.
Oui, grave.
Pour moi, c'est les héritiers de ça. Après, Chinese Man, t'avais quand même le...
C'est un peu bourrin, quand même, des fois, mais...
Oui, voilà.
Un côté un peu... Des fois, ça partait en drum and bass. Des fois,
ouais, voilà.
Mais ouais... soulève un beau point.
Merci, c'est gentil.
Intéressant de ouf.
Ouais. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on se fasse une deuxième partie. On va un peu plus parler de l'aspect vidéo qu'a pu faire Pendrez en parallèle. Comment tu composes aussi un peu Pendrez, comment tu gères tout ça. Et puis, l'aspect quand même un peu business, industrie autour du lo-fi, parce que c'est aussi une spécificité quand même de cette musique, c'est qu'elle fonctionne notamment énormément. Bah, elle fonctionne beaucoup autour des playlists notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le modèle économique? Comment toi, par exemple, tu vides ta musique?
En fait, il y a plusieurs manières. En fait, moi, c'est beaucoup les playlists qui font que je marche. Enfin, un peu moins maintenant, mais quand même toujours. En fait, les playlists, ça, on va dire que ça me fait facilement un fois 6 sur mon nombre d'écoutes. Et en fait, quand on sort des sons sur les plateformes de streaming, on est rémunéré par notre distributeur. Donc, moi, j'ai un distributeur personnel, mais tout le monde peut avoir un distributeur. Hein, tu sais, genre, t'as juste à lâcher 20 balles par an et t'as un distributeur. Et ensuite, t'es payé au nom de... Ouais, SO DistroKid, tu connais les choses. Exactement. Et donc ensuite, t'es rémunéré au nombre de streams. Alors après, y a un petit calcul à faire, tu sais, en fonction des streams qui ont été faits avec des comptes premium ou des streams qui ont été faits avec des comptes gratuits. T'es mieux payé avec des comptes premium, bien sûr. Et ensuite, c'est au nombre de streams global. À peu près, ça se joue à... avec une grosse fourchette, une grosse marge d'erreur, mais on est à peu près à 4 000 $ le million d'écoutes. À peu près. Mais c'est à peu près, hein. Ça peut être 3 000 $, ça peut être 4 500, c'est vraiment en fonction de si c'est des streams, d'où viennent les streams, de quel pays. Parce qu'en fait, il y a un pool. Si tu veux tout savoir, en gros, Spotify récupère un pool de thunes de tous ses abonnés. Et en fait, ils viennent répartir cette maille.
C'est le pot commun. Ouais.
Exactement. Ouais. Proportionnellement au nombre de streams que tu fais. Et je crois que c'est même par genre, je crois.
Hein. Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fonction du genre, ils font des sous-pools, tu vois. Ils viennent répartir la maille comme ça, en fonction du nombre de streams que tu as fait, par rapport au nombre de streams globaux qui ont été faits dans, dans ces genres-là. Voilà comment tu es payé, en gros.
Mais ça, c'est les revenus de... Simplement du... Enfin, ça a à voir avec les royautés ou ça n'a rien à voir parce que...
Ça, c'est les royalties.
Ouais. Parce qu'après, ouais. Genre la SACEM, il faut que tu sois inscrit à la SACEM.
C'est ça. À la SACEM, ensuite, tu as encore autre chose. Spotify paye un pourcentage de ses revenus à la SACEM aussi, qui vient les reverser aussi aux ayants droit des sons aussi. Alors, c'est plus petit, c'est plus faible, en tout cas sur le streaming. Après, la SACEM récupère aussi des thunes d'ailleurs, parce que Spotify et Deezer, Apple Music ne sont pas les seuls générateurs de droits d'auteur. Mais oui, effectivement, il y a aussi une partie qui est reversée à la SACEM qui ensuite nous les re-reverse derrière et qui sont beaucoup plus faibles. Je crois que là, on est plus sur l'ordre de 1000 dollars le million d'écoutes, à peu près. Voilà. Et ensuite, moi, je travaille pas mal avec des labels. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Chill Hop ou Chilled Cow. J'ai sorti plusieurs projets ou singles ou des sons dans des compiles avec eux. Et là, en l'occurrence, c'est eux qui s'occupent de la distribution. Je le fais plus tout seul. Par contre, ils prennent une part des royautés. Et donc, ça, je pense que je vais pas dire combien, mais bon, c'est une bonne part. Mais après, ça reste intéressant pour l'artiste dans la mesure où ils ont une force de frappe. C'est le concept d'un label. Hein. Ils prennent de la maille, mais par contre, ils fournissent un service derrière. Là, en l'occurrence, ils ont des playlists. Voilà. Ils vont aussi marketer ton son sur différents réseaux. Puis après, t'as aussi, c'est intéressant de sortir avec un label parce qu'il y a un prestige. Moi, quand je sors un son chez Chillop, je suis content parce que Chillop, c'est pas rien. C'est pas n'importe qui peut sortir des sons chez eux. Donc, quand tu sors un son chez eux, t'es content. C'est-à-dire que t'es un peu validé par des gens qui savent ce qu'ils font. Tu vois. Donc, ça, c'est cool. Et c'est comme ça, en gros, que je suis rémunéré. Et dans ces cas-là, c'est plus le distributeur qui me paye, mais c'est le label qui va te reverser de la thune, soit tous les mois, soit tous les trois mois, selon les différents labels.
Et à ta connaissance, donc, comme tu le disais, les playlists permettent de multiplier le nombre de vues et donc effectivement ça devient essentiel pour avoir une rémunération cool quoi, que d'être playlisté. Dans l'univers justement de cette musique, autour de, alors que ce soit les labels ou les musiciens en dehors des labels, est-ce que c'est le modèle économique vraiment dominant, c'est-à-dire que tout le monde espère être playlisté? De toute façon, j'ai l'impression que c'est limite le modèle dominant dans la musique de manière générale aujourd'hui. Quoi. C'est, tout le monde espère être playlisté. Quoi.
Mm-hmm. Bah, c'est les deux radios.
Oui, c'est aussi ça un peu. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du fait que tout le monde se mettait à faire de la lofi et que ça saturait le genre et que tout commençait à se ressembler. Et c'est aussi pour ça que c'est un souci et que beaucoup de gens se mettent à râler, tu sais, des gens qui étaient là dès le début dans la lofi. C'est que, en fait, maintenant, les gens font plus ce style-là par passion, mais juste parce qu'ils savent qu'il y a moyen de gratter un billet. Ouais. Et donc, en fait, il y a pas mal de mecs, tu sais, qui font complètement un autre style de musique, mais qui se créent un alias et qui font que ce genre-là. Et qui le font pas très bien parce que ils sont pas passionnés de ouf, tu vois. Ouais. Mais qui font ça uniquement pour être playlistés, pour gratter un billet. Après, moi je suis pas dans le genre de leur vouloir à ces gens-là parce que c'est normal de vouloir gratter un billet, tu vois. Genre. mais c'est ça en fait, c'est cet appel de la thune qui a commencé à foutre un peu la merde dans la communauté des producteurs. Et parce que ça génère beaucoup, hein, vraiment, vraiment, les playlists de lo-fi sont super puissantes, en fait. Ça génère vraiment énormément de streams. Et donc après, t'as les playlists, ça on n'en a pas parlé, t'as les playlists qui sont éditoriales, donc c'est les playlists qui sont gérées par Spotify, et qui donc ils vont eux-mêmes choisir les sons, il y a des curateurs chez Spotify, ils vont choisir les sons dans les releases, dans les nouvelles releases, et les mettre dans leurs playlists. Donc il y en a plusieurs qui sont puissantes, hein. T'as Jazz Vibes, Lo-Fi Beats, par exemple, Chill Beats, je crois, je sais plus trop. Ouais. Et puis après, tu as les playlists qui sont gérées par les labels. Donc, tu as les playlists de Chill Hop. Ils ont plusieurs playlists. Ils ont des playlists qui sont vraiment lo-fi, dans lesquelles ils mettent un peu tout. Après, ils ont des playlists qui sont un peu plus récentes, avec des sons un peu plus modernes. Et tu as Chill Cow, qui a sa playlist, qui est, je pense, en ce moment, la plus puissante dans le genre, qui a plus de 3 millions d'abonnés, je crois. Là. Et là-dedans, c'est que de la lo-fi, machin. Maintenant, comme c'est un label, Chill Cow, il met principalement les releases qui sortent chez lui, ce qui est logique. Hein. Normal. Avant que ce soit un label, il mettait un peu tout ce qu'il aime bien, machin. enfin ce qu'ils aiment bien, parce qu'ils sont plusieurs, gérer Chillcow, je crois. Donc voilà, voilà un peu comment ça fonctionne le modèle.
Et moi, je me demandais comment, parce que tu les...
comment tu as accès?
Comment tu les pitches? Parce que genre moi, par exemple, j'ai commencé sur Spotify. Et tu vois, quand je sors un morceau, j'essaie de laisser un mois, ils te disent, ils te conseillent, etc. Tu vois. Mais tu dois écrire un petit texte avec ce truc. Et puis déjà, tes genres sont assez limités. Tu vois, dès que tu fais un truc un petit peu atypique et tout, ça devient très difficile de décrire ce que c'est. Et moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblent tes petits textes de présentation quand tu pitches un morceau. Et
tu lui envoies un document Word, là, après, une petite copie, et il a besoin, là, je crois.
Moi, je fais n'importe quoi. Il y a des morceaux, je dis, j'ai composé ce morceau en pensant à ma mère qui est morte, et puis il y en a d'autres où je lui dis, genre, playlist ce morceau, s'il te plaît, et voilà, c'est tout, tu vois.
Oui, parce que ce que dit Chrono Music, en fait, quand tu sors un morceau sur Spotify, en fait, tu peux le pitcher quand c'est au moins une semaine, quand tu prépares la sortie au moins une semaine à l'avance, tu peux le pitcher à Spotify par un outil qui s'appelle Spotify for Artists. Effectivement, ils te demandent tout un tas d'informations sur le morceau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme instrument dedans, quels sont les moods du morceau, et tu peux mettre un petit texte à la fin pour expliquer le contexte du morceau. Et je t'avoue que moi, je mets tout le temps la même chose. Hein. Je mets ce qu'il y a dans le morceau, et puis après je dis « Oh, people will like it ». C'est tout.
Voilà.
Alors après, les playlists, c'est intéressant sur le court terme, parce qu'effectivement, tu vas gagner de l'argent. Mais pour le long terme, c'est pas intéressant du tout, parce que ça te crée aucune fanbase. Tu peux voir des mecs qui ont des millions d'auditeurs par mois, et ils ont genre 1000 abonnés Spotify. Tu vois, aucune fanbase. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que si un jour, ils sont plus playlistés nulle part, ils sont plus rien, plus personne n'écoute leur musique.
Ouais. Est-ce que ça peut être une approche du truc, hein, ils peuvent en avoir complètement rien à foutre.
Quand tu fais une carrière professionnelle, t'as envie de durer un minimum.
Quand t'es musicien, alors après, oui, mais dans ce cas-là, pour moi, t'es plus vraiment un musicien. Là. Dans ce cas-là, t'es un businessman, tu vois. Mais pour le coup, j'ai tendance à cautionner beaucoup de choses de filou, mais là, pour le coup, je trouve que c'est un peu le fait de s'en foutre, de pas se créer de public, de s'en foutre d'avoir un public de gens qui aiment ta musique, mais de faire ça juste. Là, ça serait vraiment juste pour la maille. Là, ça pue la merde. Là, vraiment, tu vois. Pour moi, il n'y a pas d'excuse.
Mais après, il y a le jugement moral dessus, c'est sûr, tu vois. Mais il y a des modes de fonctionnement que moi, je trouve, complètement fascinants, quoi, tu vois. C'est genre, moi, parce qu'on en avait parlé avec Talafa, qui était venu sur le premier épisode, qui parlait du streaming, je pense. Je ne me rappelle plus le thème exactement. C'était quoi, Salman?
Le premier épisode, c'était comment émerger en tant qu'artiste en 2020.
Il parlait notamment des playlists. Ouais, il travaille
chez Idol, voilà, un distributeur.
Ouais, et il parlait des playlists, et il parlait notamment des playlists piano et tout ça. Et moi, ça m'a chauffé. C'est là-dessus que j'ai commencé à faire les pianos solo et tout ça.
C'est pour ça.
Mais il y avait ce truc-là. Mais genre, moi, je l'ai fait avec en essayant de respecter le peu de valeur que j'ai, tu vois. Mais au moins en me disant, je vais faire ça un peu. Je vais faire un truc que j'aime authentiquement bien et essayer de le faire bien et voir, tu vois. Parce que ça me chauffait bien, les petits pianos Ghibli, tout ça. Mais j'ai découvert d'autres playlists, les playlists qui me paraissent le plus incroyable et le plus. Dans le sens. Celles qui sont approchées avec le plus de cynisme, c'est les playlists de méditation.
Ouais, je les ai vus.
Ah,
c'est
oui,
incroyable.
Oui.
C'est incroyable. Ils postent genre 10 albums par jour. Et c'est un pad, genre une note, quoi, comme ça, d'un synthé. Ils te font un fa, et puis un fa dièse, et puis un sol, et puis machin. Et ils te sortent 10 albums par jour. Et juste, comme ils en postent, genre, ils postent 100 morceaux par jour, il y en a bien forcément quelques-uns qui sont playlistés. Les playlists de méditation, ça tape des gros streams aussi. Et donc, si tu fais ça, genre, legit, ça te prend, je pense, une heure par jour. Et après, genre, tu uploads ces trucs-là, tu crées du volume. Et puis, toi, à côté, t'as un petit peu d'oseille qui rentre. Je pense que si tu te prends un peu la tête, tu peux faire rentrer quelques milliers d'euros par mois juste en faisant ce truc-là, quoi. Et je trouve ça incroyable de me dire, tu sais, parce que nous, on est des musiciens, donc on a une certaine vision de la musique. Mais je trouve ça au moins intéressant de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont cette approche-là, quoi. Genre,
Là, ça devient du business. Pour moi, là, on parle plus vraiment de musique. Mais oui.
Ah ouais, non, là, c'est sûr.
Oui, clairement. Ça fait envie, en fait.
Je trouvais ça fou, quoi, de me dire ça. De mais me dire, ouais, putain, c'est... Ouais. Mais là, du coup, il y a vraiment... Parce qu'il y a... On est presque dans l'escroquerie, quoi, tu vois. Enfin, genre, parce que c'est...
Oui. De toute façon... Bon. Ouais, pardon.
Après, les gens ont envie d'écouter, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Enfin, ça pose la question de qu'est-ce que c'est la musique. Parce que, tu vois, tu parlais, par exemple, de la connotation de music background, tu vois. Genre, que toi, tu trouves péjorative. Mais en fait, on n'est pas obligé de... Enfin, moi, en tout cas, je pose pas spécialement de jugement moral sur le fait que les gens écoutent de la musique avec un casque et vivent des trucs intérieurs ou juste qu'ils le mettent en fond et qu'ils passent une bonne soirée entre amis et que ça participe à ce truc-là, tu vois. Genre, il y a différents types de musique, différents types de la faire, différents types de l'apprécier, tout ça, tu vois. Différentes manières de l'apprécier et j'ai tendance à ne plus hiérarchiser ces trucs-là. Mais là, on rentre vraiment dans un autre truc où là, c'est il y a plus besoin de savoir-faire, en fait, tu vois.
De toute façon, il va falloir s'habituer. Il va falloir s'habituer, les gars. Tu le vois, parce qu'on parlait des playlists depuis tout à l'heure. Il y a les playlists par genre musicaux, par exemple, choses comme ça. Mais celles qui se développent le plus, en réalité, c'est les playlists d'accompagnement liées à une activité précise. On va dire, celle-là, c'est pour faire du sport. Celle-là, c'est pour dormir. Ça, c'est pour ton café le matin, etc. On rythme la vie des gens de cette manière. Et on sait que Spotify, par exemple, a racheté des boîtes avec des algos, des IA, etc. autour de la forme du bien-être qui, en fait, s'adapterait en temps réel. Comme, par exemple, t'as ton Apple Watch, des trucs comme ça, tu vois. Te suit vrai, te mettrait le son qui correspond à l'activité que tu es en train de faire, etc. Et donc cette consommation de la musique, vraiment plus une écoute active, mais d'accompagnement, elle va se développer dans le futur d'un truc de malade, c'est certain, tu vois, parce que c'est un business clairement qui a beaucoup d'avenir.
Oui, bah après, là, c'est encore autre chose, parce que là, dans ce cas-là, tu sais, là, ça gère les algos pour prendre des morceaux qui peuvent être même être des morceaux très mainstream, de pop, etc., pour venir te les caler dans ton quotidien, effectivement. Mais là, ce dont parlait Chrono, c'est encore autre chose. Tu sais, c'est le machin de... Effectivement, là, c'est une pauvre nappe de merde, tu vois, qui fait... Et puis, tu fais 30 dans la journée.
Mais c'est presque dans la même logique, parce qu'en réalité, en parallèle de ce mouvement-là, il y a ce que font TikTok, Spotify et d'autres, où ils bossent à fond, ils rachètent des boîtes qui bossent sur l'IA musicale, qui composent du morceau à la volée. Et leur but, TikTok par exemple, à mon avis, leur but, c'est de s'affranchir du catalogue des maisons de disques, en réalité. C'est d'avoir leur propre catalogue qui proposeront aux gens, tu vois, qui veulent faire des lip-dubs, des trucs comme ça, etc. Et ils développeront leur business et ils gagneront beaucoup plus d'argent, puisqu'ils n'auront même plus l'industrie musicale au cul, tu vois. Donc c'est des mouvements, en fait, qu'il faut, tu as raison, c'est deux mouvements différents, mais qui vont ensemble en réalité. Et c'est, il y aura pas que ça dans le monde musical de demain, mais c'est aussi une dérive, chacun le voit comme il veut, mais c'est un truc qui se développe, c'est certain. Tu voulais ajouter quand même un élément là sur la discussion ?
Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, sur l'aspect des playlists, en fait, les playlists, ça ne construit pas de fanbase, c'est-à-dire que tu peux avoir des millions et des millions d'auditeurs, mais avoir vraiment une fanbase qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et donc, le plus important, en fait, là-dedans, en fait, c'est de réussir à se la créer, cette fanbase. Donc après, il y a plein de canaux pour ça, hein, genre, t'as Twitter, bah, Chrono Music connaît bien, voilà, t'as Instagram, machin. En fait, c'est la vidéo, maintenant, pour tous les artistes un peu lo-fi, chill-hop, etc. C'est la vidéo qui est devenue un peu un vecteur de... Enfin non, une manière d'avoir des gens qui te follow, toi, et non pas qui écoutent pas juste ta musique de manière random. Tu vois. Ouais. Et c'est... Ouais, alors oui et non. Bah, surtout que moi, j'étais dans le divertissement plus que dans la musique pure, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je te dis, c'est plus... par exemple, en ce moment, il y a un mec qui pète beaucoup qui s'appelle The Count. Je pense que tu as déjà vu passer Chrono Music. Non, c'est un mec qui fait des trucs très groovy. Ah oui, mais il buzz de ouf. Hein. C'est un ricain, lui. Et en fait, il se filme en train de faire ses grooves directement avec ses machines, en train de prendre sa guitare, enregistrer tu sais, des folies sur son micro, machin, etc. Ouais. Et lui, il se crée une fanbase grâce à ça. C'est-à-dire que lui... Sans playlist, il a quand même une fanbase qui lui permet de vivre, tu vois, qui fait assez de chiffres pour vivre. Je pense que moi, j'ai réussi à atteindre ce stade aussi, c'est-à-dire que sans les playlists, j'ai quand même une petite fanbase qui me permet quand même de pouvoir ne pas être trop inquiet, donc tu sais, j'ai pas besoin de me dire « merde, faut que je réalise un truc pour la playlist, machin ». Ouais. Même sans playlist, ça va, tu vois. Et en fait, c'est super important et il faut pas que ça se perde trop, parce qu'effectivement, là, sinon on crée... plus vraiment des artistes, et on a juste plein de petits robots qui font des sons, des millions d'écoutes, mais qui ont vraiment personne qui s'intéresse vraiment à leur musique à proprement parler. Quoi.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'est important. Enfin, en tout cas, on sent que t'as eu cette réflexion-là à un moment. Genre, il y a un moment où ça t'a tracassé un peu cette histoire de faire du chiffre et de pas... Enfin, on sent que tu t'es posé cette question-là, quoi. Est-ce qu'à un moment, je ne vais pas juste me retrouver dans la merde à être écouté par, au final, personne attentivement ou...
Bien sûr. Après, il y a plein de manières de créer ça. Déjà, il faut créer un son reconnaissable, tu vois. Il ne faut pas que ça ressemble à tout. Donc, après, ça, c'est comme dans tous les styles. Après, là, c'est même plus inhérent à la lo-fi. Mais, ouais. Mais oui, se créer un style particulier. Et puis surtout, gérer. Maintenant, c'est comme ça. C'est 2020. Mais faut gérer ses réseaux sociaux, faire du contenu particulier... sortir son épingle du lot, quoi. Ne pas oublier aussi Facebook, très important, Facebook.
Et sur Facebook.
Est-ce que tu fais référence à quelque chose? Non. Passons à autre chose.
Bah, c'est surtout, je pense, moi en tout cas, de... parce qu'en vrai, on faisait la blague, etc., mais on se fréquente pas tant que ça, on s'entend bien, on s'est déjà vu et tout ça,
oui, voilà.
Mais on passe pas notre temps ensemble. Et moi, je suivais ce que tu faisais quand t'étais sur YouTube d'un peu loin, en tant que, on va dire, confrère, avant qu'on se rencontre. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même, parmi ton public, beaucoup de beatmakers, soit débutants, soit confirmés, mais qui ont justement pas forcément énormément d'exposition, etc. Et toi, t'as quand même donné un peu une espèce de plateforme à ces gens-là en francophonie. T'as fait un Discord et surtout, t'avais un endroit où, ne serait-ce que dans les commentaires de tes vidéos, t'avais des gens qui partageaient ce truc-là, quoi. Donc, t'as quand même, j'ai l'impression, ce truc de légitimité vis-à-vis de ce truc-là. Au moins, t'as été un genre de point de rencontre de plein de musiciens.
C'est exactement ça. Je l'aurais pas dit mieux. C'était mon but à la toute base, hein, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, qui est un peu à l'arrêt maintenant. J'avais pas de potes qui faisaient du son, moi. Tu vois. Donc, je cherchais des gens avec qui... Enfin, je me disais, vas-y, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Donc, si je fais ça, déjà, je vais être un peu tout seul. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait vraiment au beatmaking, tu vois. Il nous dit, si je fais ça, peut-être ça me permet un peu de fédérer, entre guillemets, des gens qui aiment bien le monde du sampling. Moi, c'est surtout le sampling à la base. Et donc, je samplais des trucs de geek parce que je me disais, YouTube, c'est un univers geek. Donc, pour amener les gens à s'intéresser au sampling, machin, etc., je vais sampler des trucs de geek. Ça me donnera un peu d'exposition. Donc, c'était des animés et des jeux vidéo. Ouais. Ça me donnait un peu d'exposition.
J'ai oublié comment il s'appelle ce jeu, mais celui qui te sert de PP sur N64 qui dose.
Ah, ça, c'est Conker's Bad Fur Day.
Ouais, ça, il a l'air incroyable, ce jeu. Je le voulais trop et je l'ai jamais eu. Mais il a l'air incroyable. Phénoménal.
Mais lui, je l'ai pas samplé, pour le
non,
coup.
Non, jamais?
Non, jamais. Celui-là, je l'ai jamais samplé. Non. Mais, moi, j'aime beaucoup ce monde-là, de manière, le monde du jeu vidéo. Mais bref. Et donc, en fait, à la base, je voulais juste faire en sorte que des gens s'intéressent au sampling et comprennent ce que c'est, parce que j'ai l'impression que c'était pas trop répandu. Ouais. En utilisant des jeux vidéo et des animés, parce que à cette époque-là, même encore maintenant, YouTube c'était rempli de ça. Tu vois et je me disais, vas-y, on va ramener ça comme ça. Ça peut intéresser les gens. Et puis en fait, petit à petit, il y a des gens qui se sont intéressés. Mais à l'époque, le souci, c'est que j'étais flingué de ouf en prod, tu vois. Je puais la merde, mais fort. Hein. Et donc, ça m'a créé une image un peu particulière, je pense, aussi, à ce moment-là. Mais bah, petit à petit, il y a des gens.
Tu regardes ça maintenant avec ton œil de maintenant, parce que d'office, t'as progressé, mais pour n'importe quelle personne qui déjà, enfin, soit qui débute, soit qui, genre, il y a des gens comme moi, je me considère comme ça, c'est des gens qui ont un parcours à trous, tu vois, qui ont, comme beaucoup d'autodidactes, en fait, tu vois, qui ont genre certaines connaissances qui sont assez poussées dans un truc, et puis dans les autres, ils ont totalement des trous, donc tu peux pas vraiment faire une espèce de hiérarchie comme ça, de dire un type est soit claqué, soit fort. Genre, t'es claqué dans certains trucs, t'es fort dans certains d'autres, et puis après, t'essayes de combler tes trous et tout ça.
Je pense qu'on a un peu le même parcours, toi et moi. Par exemple, au tout début, je m'intéressais quasiment que à tout l'aspect composition brute, parce qu'à la base, tu sais, je suis un peu... j'aime la musique, tu vois, j'en écoute beaucoup, et j'aimais bien faire un peu de clavier, de la guitare, machin et tout. Donc, je m'intéressais qu'à ça, et pour moi, tous les aspects mix... Sound design venait clairement au second plan, voire était pas spécialement utile, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que ça fait la moitié du son.
Ouais,
en
fait. C'est sûr.
Au moins.
C'est ouf d'avoir mis aussi longtemps, enfin pour ma part, tu vois, d'avoir mis aussi longtemps à le réaliser. Moi, il m'a fallu facile 5-6 ans de son avant de commencer à m'intéresser au sound design et à ce que ça procure comme sensation et pas opposer ça à je sais pas comment dire, à pouvoir reconnaître que des trucs sont cool, même s'il n'y a pas beaucoup d'accords ou si l'harmonie n'est pas spécialement riche et tout ça, tu vois.
Grave, grave.
un son, tu vois, qui te rentre dans la tête, qui te marque ou des trucs
après,
comme ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de culture? C'est par exemple, tu vois, je sais pas, moi en tant que guitariste, et Pandres, t'as été guitariste aussi, enfin, tu l'es toujours d'ailleurs, j'ai quand même toujours été marqué, tu sais, par le côté aussi live de la musique, par une approche différente, moins marquée par le sound design justement. Et je pense que, enfin, tu vois, je pense avoir les deux cultures. Après, je fais beaucoup moins de prod que vous, etc. Mais je pense aussi, tu vois, ça nous influence, ça, ce qu'on a écouté longtemps, ce qu'on a aimé, et notamment l'approche aussi, pourquoi pas plus live de la musique qui peut exister aussi. Je sais pas, Pandres, tu vois, si toi ça a été ton truc un peu, c'était un peu tourné, c'était un peu joué en extérieur.
Ouais, beaucoup, ouais. J'ai commencé comme ça, hein, en faisant ton guitariste soliste dans d'horribles groupes de punk et de.
Voilà. C'est pas gentil pour vous, ça.
Non, mais j'étais leader, hein, donc j'ai. Parce que je chantais, hein, quel enfer. Putain.
Allez
ah, c'était putain, catastrophique. C'était
faut demander à Internet de retrouver ça.
Non, c'est pas sur Internet, c'est c'est pas sur Internet, tant mieux. Mais ouais, non, c'était catastrophique. Mais oui, grave, c'est exactement ce que tu dis, hein, c'est une question de background. En fait, moi, j'ai commencé à kiffer la musique, j'écoutais que du rap jusqu'à peut-être mes 12-13 ans. Puis après, j'ai eu une gratte et je me suis mis à faire que de la gratte. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, oui, mais en fait, la musique, faut jouer avec des instruments.
Voilà.
Tu vois, un machin, tu sais, comme un petit enculé, tu vois. Pardon, ouais. Comme un gros con. Et, ouais. Jusqu'à peut-être mes 16-17 ans, où là, j'ai commencé à me réintéresser au rap. Et je me suis acheté une MPC. Et en fait, là, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas si simple. En fait, tout l'aspect production, programmation, machin, ça peut être compliqué, voire plus. Je me suis rendu compte même que je galérais plus à programmer un morceau, à le faire par ordinateur, que de le composer avec un clavier et une guitare. Que ça amenait aussi quelque chose de nouveau, enfin, de différent, pardon. Et ouais, tout à fait. Mais de toute façon, notre background, il définit... ça me fait penser au truc de DJ Snake qui dit « j'ai un background ouais. ». Mais notre background, il définit complètement comment on va évoluer. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi réussir à essayer de s'ouvrir et de faire fi un peu de ton background en faisant confiance
à... joliment dit.
C'est complètement vrai. Et en même temps aussi, tu vois, ça nourrit aussi ta pratique après derrière. Et, enfin, c'est pas renier, tu vois, ce qu'il y avait avant, parce que je pense que t'as encore plein de réflexes, tu vois, que t'as gardé, qui nourrissent ta production et tout. Et c'est super important. Ça fait la différence aussi avec d'autres personnes, par exemple, tu vois.
Alors, ouais, oui, sûrement. Mais je pense que de toute manière, à partir d'un certain stade, tous les producteurs ou compositeurs, à partir d'un certain stade, quand ils commencent à se dire « je veux faire ça sérieusement », c'est sérieusement, c'est-à-dire juste pas faire ça en tant que petit hobby, machin, ça veut dire qu'ils ont réussi à atteindre aussi normalement un moment où le stade de remise en question et de recul. Enfin, en tout cas, c'est le stade qui est le plus important. C'est le moment où tu vas réussir à avoir un peu de recul sur ce que tu fais, à te remettre en question et aussi à accepter que tu as des lacunes un peu partout et qu'il faut que tu... Et qu'en fait, t'as plus de chemin encore à parcourir que de chemin déjà parcouru, en tout cas dans la... Et donc, en fait, c'est pour ça que, tu sais, je te parle du background, machin. Tu sais, je connais des gars qui savent pas du tout faire de son, qui savent pas du tout faire de clavier ou de guitare, mais qui ont par contre qui font des compositions phénoménales, tu vois. Mais tu sais, vraiment, tu te dis, regarde Chrono Music, par exemple. Alors, je sais que tu fais des instruments, je sais que tu fais de la gratte un peu et tout. Mais il fait des compositions au piano, sans piano. On dirait que c'est un pianiste qui a joué ça. C'est magnifique, de ouf. Oh,
tu me fais plaisir.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc tout ce qui va être le background technique, etc., tu peux facilement en faire fi, mais il faut juste passer du temps dessus, être patient, être curieux, quoi.
Ouais, la curiosité, c'est la base de tout, je pense. Hein. Si t'as pas l'impression quand tu regardes vers demain que genre il te reste encore full truc à apprendre et tout ça, je vois pas l'intérêt de faire de la musique en fait si c'est pas pour je sais pas te plonger dans l'infini des trucs que tu vas pouvoir apprendre dedans quoi, tu vois ce que je veux dire. Sinon ouais. Si tu veux apprendre un truc que tu pourras un jour avoir appris, ben faut faire autre chose.
Oui, ben clairement. Mais c'est ça qui est le plus excitant, je trouve. Le fait de se rendre compte qu'il y a tellement de trucs que tu sais pas faire ou que tu fais mal.
C'est tellement excitant. C'est le plus cool, je trouve. C'est quand t'écoutes un truc et que tu dis, attends, putain, pour savoir faire ce genre de truc ou pour comprendre ce genre de truc, il va me falloir encore 15 ans. Et tu vois, t'as cette espèce de mélange entre la frustration et l'excitation de dire, putain, vas-y, en vrai, il y a moyen, et enfin, je sais pas, c'est ça
cette,
qui est cool.
C'est cette fameuse courbe, vous connaissez le truc, il y a, en abscisse et en ordonnée, tu vois, t'as genre, ce que je sais, et tu vois, genre, est-ce que la sensation que j'ai de maîtriser le sujet. Et en fait, et plus tu apprends de choses, moins tu as la sensation de maîtriser le sujet. Justement, en fait, tu vois, quand t'as juste ouvert un peu la porte, tu dis, ah, je comprends plein de choses, je maîtrise, etc. Puis en fait, plus tu vas loin, plus tu vas loin, plus tu dis, mais en fait, je connais rien. Tu vois, et c'est exactement ce dont vous parlez, en fait. C'est que un champ de possibilités s'ouvre au fur et à mesure que tu dis, que t'approfondis le truc.
Ouais, clairement. Clairement. Là, je me revois il y a, je sais pas, 10 ans. Et tu sais, quand j'ai un peu commencé, tu sais, que je faisais de la guitare pas un peu bien, tu vois, machin. Et que j'ai commencé à faire un peu de son sur Cubase et je faisais du prog, un peu Pink Floyd-esque et tout ça. Et genre, j'avais l'impression d'être vraiment très chaud. Mais vraiment. Je me disais, putain, mais je suis trop chaud. Comment ça se fait que je perce pas? Je me rappelle, je balançais mes sons sur des forums de Pink Floyd et tout. Et en me disant, ils vont forcément kiffer, c'est sûr. Alors, et bien sûr, soit ils répondaient pas les gens, soit ils disaient que c'était nul à chier, tu vois. Et je me disais, c'est juste qu'ils comprennent pas, tu vois. Et, alors qu'en fait, maintenant, c'est l'inverse total, tu vois. C'est, alors, je pense pas non plus avoir un niveau d'enculé, hein, je dis pas ça, mais maintenant que j'ai beaucoup plus de recul sur ce que je fais, je suis aussi plein de doutes. Dès que je vais envoyer un son à des potos qui font du son et que je sais très fort, etc., je sais qu'ils vont me flinguer, tu vois. Et je suis surpris maintenant quand ils me disent que c'est bien.
Ah ouais?
Tu vois où je veux en venir. Maintenant, je suis surpris quand on me dit que c'est bien. Alors, ça dépend qui. Tu vois, quand c'est des abonnés, etc., je déteste ce mot. Je sais pas comment. Les gens qui écoutent ma musique,
tes auditeurs,
qui me disent que c'est bien.
Ton public?
À la limite, ouais, le public, oui, c'est bien. Qui me disent que c'est bien. Bon, je suis pas surpris parce qu'ils connaissent déjà ce que je fais et puis ils aiment bien ce que je fais. Mais quand c'est d'autres collègues, tu vois, d'autres gens qui font comme moi, maintenant ça me surprend, tu vois, je suis content quand on me dit que c'est bien.
Et c'est sûr que plus tu progresses et plus tu deviens exigeant aussi, tu vois.
Ouais, je pense surtout c'est une question de recul. C'est vraiment. Après, on n'a jamais suffisamment de recul sur ce qu'on fait, hein, mais. Je pense vraiment que c'est une question de recul, parce que l'exigence, en vrai... Oui, si t'as raison.
T'as grave raison.
Ouais, je sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Après, genre, justement, pour moi, c'est... Il faut absolument en sortir, et c'est pour ça que, genre, moi, j'essaye d'uploader un morceau sur Spotify toutes les deux semaines et j'aimerais bien toutes les semaines, mais bon, après, j'ai encore d'autres trucs à faire. Et c'est pareil sur YouTube et j'essaye vraiment de me forcer à arrêter de, je sais pas, d'être exigeant, tu vois. Parce que il y a un moment où, en fait, j'ai l'impression que moi, personnellement, ça me paralyse, tu vois. Il y a un côté où, genre, ouais, si tu te focalises sur des trucs et t'oublies un peu le principal, quoi. Je sais pas, de t'amuser, de communiquer avec les gens, tu vois, ce truc-là. Et bon, très vite, je peux me retrouver focus à genre, j'ai envie de faire un truc et puis je me retrouve à dire, attends, je vais régler un détail et puis en fait, je vais passer 3 mois sur le son et puis après, je l'aime plus et puis je le jette à la poubelle et puis tu vois. Et genre,
ce que tu dis, ça me fait penser à une interview que j'ai lue récemment, enfin, que j'ai vue récemment de Albert Dupontel, vous voyez, l'acteur, aussi réalisateur. Et il parlait du taf qu'il avait fait avec Gaspard Noé, notamment sur Irréversible. Et en gros, il racontait sa rencontre avec Gaspard Noé et il disait qu'il avait été marqué par un truc, c'est qu'il considérait que c'était un type extrêmement intelligent, Gaspard Noé, mais qui avait conscience que son intelligence pouvait être un frein aussi. Il pouvait lui mettre des barrières. Et que ça fait qu'il joue régulièrement, il se mettait il se forçait à être dans l'instinct, dans le moment, à tout de suite faire les choses et gagner, tu vois, cette, tu vois, en intensité comme ça d'un coup et mettre de côté ce qui peut devenir un frein, qui est à la fois nourri à des moments, tu vois, c'est utile aussi de se poser, de réfléchir, etc. Mais et voilà, Dupontel avait été marqué par ça chez Noé, ça me fait penser un peu à ce qu'on raconte là aussi, quoi.
Oui, t'as... Ça fait bien écho à ce que dit Chronomusique. Mais oui, c'est savoir réussir à faire tomber cette petite barrière. Donc, c'est mieux quand tu le fais sans drogue, bien sûr. Mais faire tomber cette petite barrière, c'est qui dit non, mais ça va peut-être pas ouf, qui t'empêche de tenter.
Ouais. Ouais, c'est je pense que juste. Mais pour moi, une des manières de le faire sans drogue, car je suis extrêmement clean, venez chez moi, prenez mon pipi, vous verrez. Je pense simplement se mettre des deadlines régulières et dire je fais juste un son toutes les semaines et un truc qui sort et quoi qu'il arrive ça sort. Je pense que ça oblige aussi, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un de très connu et légitime sûrement, qui disait en gros, il y a pas mieux pour l'inspiration qu'une deadline. Et moi, j'ai l'impression que ce truc-là aussi, c'est même quand je fais des commandes et tout, tu vois, je fais de la musique sur mesure et genre, je me mets toujours dessus à la fin.
Mais au-delà même de la deadline, c'est la contrainte. On sait tous, ouais. Même en tant que musicien, t'apprends ça très vite que la contrainte est essentielle pour voilà, tu vois, mobiliser des ressources qui sortent, tu vois, un peu du lot, quoi, et dire, bah, vas-y, là, j'ai pas le choix, comment je me démerde, quoi.
Ouais, c'est essentiel. C'est éviter aussi le syndrome de la page blanche, parce que t'as aussi tout ce côté, genre, quand t'as encore rien fait, t'as l'infini, devant toi, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, et du coup, tu dois faire des choix, et donc abandonner tous les autres trucs, tu vois. Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut être très paralysant. Dès que t'as un canevas, comme t'aimes bien, Salman. Genre, ben, directement dedans, c'est plus facile pour toi de t'exprimer, quoi. Genre, tu peux déjà te délester d'un certain truc.
Je suis entièrement d'accord. Je marche que comme ça aussi. Enfin, quand je dois faire des trucs qui sortent de ce que je fais habituellement, c'est que sous la contrainte que je le fais le mieux. Tu sais, il y a eu. Tu vois, qui c'est, Ghost Killer Track?
Ouais.
Ouais, il a organisé un tournoi, là, pendant la quarantaine, un tournoi de beatmaker. Il y avait
j'ai vu passer, j'ai la haine, j'ai pas pu regarder.
C'est sur le web, c'est ça, sur YouTube, enfin en vidéo.
C'était sur Insta, en fait. Genre tous les jours, il y avait un duel, mais il y avait 64 beatmakers et que des pointures. Hein. Il y avait Vladimir Cauchemar, il y avait Cash Money IP, il y avait Junior à la prod, CZ, Tommy on the Track, etc. Enfin, que des gros blazes. Et puis il y avait moi. Il m'avait demandé de participer. Et en fait, j'ai dit ouais, mais moi, je fais pas des tracks de battle. Tu vois, les tracks de battle, c'est énervé, tu sais, les battles de beatmaker. Ouais. Moi, c'est rare que je fasse des trucs. Donc, ça m'a forcé pendant, ça a duré un petit moment, parce que je suis arrivé jusqu'en demi-finale. Donc, ça m'a forcé à faire que des trucs, de me sortir de ma zone de confort, mais genre, des fois, genre, parce qu'il fallait balancer 3 tracks par passage, tu vois.
Ouais.
Et des trucs pas sortis. Donc, j'étais un peu dans la merde, tu vois. Donc, en fait, il y a eu des moments où il fallait que je fasse. Je me disais, putain, j'ai demain mon duel contre, je sais pas, Ryan Beats. J'avais un duel à un moment. J'avais rien de prêt. J'ai dû faire les 3 tracks en une nuit. Ouais. Donc, 3 drops. Et technique, tu sais, parce que c'est un battle. Donc, j'ai fait les trucs. Et une fois que je les ai finis, je me disais, putain, c'est vraiment moi qui ai fait ça, là. Tu sais, je réécoutais les tracks. Je me disais, putain, je suis chaud, en fait.
Ouais, c'est vrai. Une fois que t'es sous pression et tout, c'est là que tu. Enfin, ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens que ça peut paralyser, mais. J'ai l'impression que si toi, t'arrives à. Enfin, t'apprends à faire du judo à cette pression-là, c'est là que tu sors tes meilleurs trucs, tu vois.
Exactement.
Bon, les gars, je pense qu'on a fait un bon tour autour de la musique lofi. On a essayé d'expliquer un peu en quoi ça consistait. Pandres nous a parlé aussi de plein de choses autour du business, de ta façon de travailler, etc. C'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être, Michel, t'aimes bien quand même demander un peu les projets
c'est ma passion, j'aime bien savoir ce que font les gens.
Ah, tout le monde, tu finis comme ça.
Ouais, mais j'aime bien, le futur m'intéresse et le futur de notre invité en particulier. Donc, Pandres, quels sont tes projets à venir là?
Je fais pas mal de prod pour des rappeurs en ce moment, donc plutôt de la trap, de la drill, etc. On a ouvert un studio dans Paris avec deux collègues, Jisan et Pectas, donc on travaille à ça en ce moment. Puis j'ai un EP qui arrive en mars avec Chilco, sûrement. Pas mal de petites tracks qui sortent dans des albums de copains, quelques singles, quelques compiles. Pas mal de petites choses, voilà. Donc c'est cool, ça se passe.
Et t'envisages pas un petit retour sur YouTube?
Ah, alors, ça en fait, on n'était pas censé en parler, mais en fait, j'ai prévu, on était peut-être pas au courant, mais j'ai prévu de faire une vidéo avec toi, bien sûr.
Ah eh ben, je suis très, très partant, très partant.
Mais sur ta chaîne YouTube, voilà.
Ah oui, mais celle-là, c'est ma poubelle personnelle.
Voilà, parfait. J'adore la poubelle des autres.
Voilà.
Et très bien, très très bien. Et puis si possible, réessayer de faire une collab ensemble, où cette fois-ci tu seras playlisté, parce que désolé, la dernière fois, ça n'a pas marché.
Ouais, mais ça, on l'a fait pour le bonheur.
Pour le sport, voilà.
Voilà, mais moi je serais vraiment chaud de faire un vrai truc, parce que là en plus, t'avais ressemblé un morceau à moi et tout ça, tu vois, et c'était cool et tout, mais tu vois, qu'on fasse un ou deux allers-retours, ça peut être sympa.
Ouais, je suis très chaud. J'ai très, très, très apprécié ton dernier, là, celui que t'as sorti.
Le Nocturne Animal.
Ouais, c'était chaud.
Avec le collaborateur. Ah, merci, ça fait plaisir.
Justement, Michel, toi, on te retrouve alors donc sur les plateformes de streaming, tes morceaux, dont on parlait là, juste là. Évidemment, la chaîne Chrono Music.
Voilà. La chaîne Poubelle, où je mets tout.
C'est ça. Et avec toujours régulièrement plein de vidéos. Là, c'est vrai que les collab abonnés, c'est cool en ce moment. Les collab abonnés, où tu demandes aux gens comme ça d'envoyer du son et tu leur travailles derrière et tu essayes voilà, de faire une petite collab.
Ouais, voilà, des petits multipistes. Et puis après, moi, j'avance sur le morceau, je leur envoie une proposition. Souvent, j'essaie de tirer le morceau un peu vers ailleurs. Je leur envoie une proposition, je me dis que ça peut plus les inspirer que le truc dans lequel ils étaient déjà bloqués à la base. Et puis même moi, j'aime bien faire des trucs différents avec le matériau de base que j'ai. Et puis après, on termine le morceau ensemble. Et puis on upload ça sur les plateformes de streaming. On fait 50-50 sur les royautés. Et j'en fais une petite vidéo explicative où là, je vais essayer d'intégrer de plus en plus les abonnés dans le processus de la vidéo aussi. Ça peut être intéressant pour peu qu'ils soient à l'aise avec l'exercice, tu vois. Mais voilà, ça c'est le projet, je crois, le plus sympa que j'ai à faire en ce moment, tu vois, parce que c'est cool, on échange avec les gens et tout. Collaboné 4 dans 2 ou 3 semaines. Et puis avant ça, donc samedi, je tourne ma vidéo MSI, ma vidéo sponsorisée, MSIsée. Là, ça va être McFly et Carlitesque, mon gars. On va crier, on va jurer sur la tête de nos enfants respectifs, ça va être incroyable.
C'est beau,
et toi,
c'est
Salman, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Eh bah, vous le savez, c'est sur la chaîne Monte le son essentiellement que ça se passe, comme ce podcast d'ailleurs, que vous pouvez retrouver quand même en audio, donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne, etc. Vous connaissez les bails. Et sinon, bah, j'ai plusieurs vidéos qui arrivent, et là pendant cet été, déjà, on n'a pas chômé, hein. Il y a eu plusieurs trucs qui ont été publiés, notamment 2 épisodes consacrés aux revenus dans le streaming, comment ça fonctionne, quels sont les différents types de contrats, les différents intermédiaires, comment l'argent se répartit, combien gagnent les artistes à chaque écoute, etc. Toutes ces questions qui sont essentielles aujourd'hui, notamment quand on veut se lancer dans une carrière, et ben là, c'est un beau panorama en 2 épisodes pour essayer de comprendre ça. Il y a là un épisode qui sera probablement sorti lorsque le podcast sera out, consacré à la musique et les plantes. Est-ce que la musique fait pousser les plantes? Il y a une relation ancienne en réalité entre musique et plantes. On imagine notamment qu'en faisant des chants, etc., on peut faire pousser. Et bah, je me suis penché là-dessus, vu qu'il y avait des vrais trucs scientifiques. Je suis tombé sur pas mal de charlatans aussi, donc j'hésite pas à les afficher. N'hésitez pas.
Yes,
donc
c'est le buzz.
Donc c'est un sujet qui paraît comme ça un peu con, mais c'est passionnant en réalité. Et puis j'ai tenté un format un peu différent aussi, là, qui sera diffusé dans quelques semaines, je pense, où j'essaye de convaincre les gens, et notamment dans mes vidéos, il y a souvent des réactions en mode un peu boomer sur l'autotune c'est horrible, ils savent pas chanter, etc. Alors je sais que c'est un débat ancien, mais apparemment il y a plein de gens qui sont pas encore passés à l'étape d'après. Donc je suis revenu là-dessus en mode écoutez, on va prendre des morceaux, on va les écouter ensemble, les analyser, j'essaie de prendre des trucs très variés, très différents, et essayer de démontrer qu'il y a de la variété et de la qualité aussi dans l'autotune. Voilà un peu le but de cette vidéo.
Eh ben
voilà, quel programme
ouais, oui.
Quel programme.
En tout cas, en ce qui concerne le programme de Dans le Tempo, c'est le retour dans un mois. Vous le savez, on est là tous les mois. On a commencé là à penser à des sujets, à des invités. On a commencé même à lancer des invitations. On essaye de vous préparer plein de trucs excellents, de grande qualité sur toute l'année. On va parler de plein de sujets différents. Ça va être passionnant. Michel, j'ai hâte. On se retrouve dans un mois. Pandraise, merci. À bientôt,
merci
tout le monde.
Merci à vous.
Ciao.
Grand merci à vous. Je vous ai pas remercié. Merci.
Merci à toi, ça fait plaisir.
Yes. Au mois prochain, Michel. Ciao.